Bonjour à tous. Vaccination sans rendez-vous tout le week-end en cette période de rentrée et d'intensification des brassages de population. Les risques de contamination augmentent, le virus circule toujours. Et pour vacciner le plus grand nombre, pas besoin de réserver un créneau. Reportage dans un instant. La question du pouvoir d'achat et les rémunérations arrivent dans le débat. Les salaires ne sont pas à la hauteur dans l'hôtellerie et la restauration, selon Elisabeth Borne, ministre du Travail. C'est au gouvernement de tordre le bras aux entreprises sur les salaires, explique Laurent Berger de la CFDT. À l'étranger, en Afghanistan, les talibans repoussent l'annonce du gouvernement. Dans le même temps, les combats se poursuivent dans la région du Panjshir, bastion de résistance anti-taliban. Dans ce journal également, à 3 semaines des législatives en Allemagne, Olaf Scholz et les sociaux-démocrates en position de favoris. Les Jeux paralympiques de Tokyo et une nouvelle médaille française ce matin, l'argent en paracanoë. Et la reprise cet après-midi du top 14 de rugby. La météo, nuages et averses sur une grande partie du pays. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal. À 13h20, secret d'info. Au programme aujourd'hui, Jacques Monin.
Eh bien, cette semaine de rentrée, nous verrons que certains enfants échappent à l'école de la République, soit parce qu'ils sont sous l'emprise de sites éducatifs douteux, soit parce qu'ils intègrent des écoles aux croyances contestables.
Jacques Monin, secret d'info à 13h20.
France Inter.
Le cap sera franchi dans les prochains jours. 50 millions de Français vaccinés avec au moins une première dose. Après un démarrage poussif, la France est désormais dans le peloton de tête européen et mondial de la vaccination contre le coronavirus. Moins de 10 millions de Français n'ont pas encore reçu une première injection, selon le ministère de la Santé. Et dans le cadre de l'opération baptisée à la rentrée « Tous vaccinés », la vaccination est ouverte tout le week-end sans rendez-vous. C'est le cas au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, où vous êtes rendu. Bonjour Béatrice Duguay.
Bonjour.
Ce centre de vaccination a programmé 1600 rendez-vous, plus tous ceux qui viendront sans rendez-vous.
Najwa, par exemple, le veut pour sa fille de 13 ans. Elle-même est vaccinée, mais elle a eu du mal à convaincre Aya, sa fille, donc.
Le vaccin, on ne sait pas toujours ce qu'il peut provoquer. Du coup, on hésite.
En fait, ce que je vois le plus pour les adolescents, les réseaux sociaux aussi, c'est qu'ils jouent un grand rôle. Tellement qu'elles regardent des vidéos, tout ça, ça aussi, ça joue. Et ça leur fait peur aussi.
Noah, bureau numéro
18. Bara, lui, vient clairement contraint pour garder son emploi. Ce dentiste syrien arrivé en France il y a 3 ans n'admet pas que ce pays démocratique, dit-il, lui impose une vaccination dont il craint les effets.
C'est pas clair, parce que cette étape pour le vaccin, c'est très rapidement. Attends un petit bout. Après, je suis d'accord. Maintenant, j'ai peur, oui.
Pas de peur pour Nathalie qui amène Evan, son fils de 12 ans. Vaccin indispensable pour s'inscrire au club de boxe. Nathalie, vaccinée dès qu'elle a pu, mais très contrariée ce matin.
Je me sens brusquée, du coup j'ai fait un pas en arrière en disant ça, la façon où ça se passe, ça ne me plaît pas.
En fait, il suffit de dialoguer, il suffit d'expliquer.
Karine, médecin vaccinatrice, apporte des réponses patientes à toutes ces interrogations.
Selon les uns ou les autres, les craintes ne sont pas les mêmes et du coup on arrive à désamorcer les choses. Il y en a qui ont tout simplement peur de la piqûre, par exemple.
Tous les jours, 50 à 200 personnes viennent se faire vacciner sans rendez-vous au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, probablement plus ce week-end.
Béatrice Duguay, merci. Dans le même temps et pour le 8e samedi consécutif, les antipasses sanitaires continuent de se mobiliser. Plus de 200 manifestations sont prévues aujourd'hui en France. Les deux week-ends précédents, la mobilisation avait marqué le pas. Et puis concernant le pass sanitaire dans les centres commerciaux, Elisabeth Borne explique ce matin que si la situation sanitaire s'améliore, alors le gouvernement pourra assouplir les règles dans les centres commerciaux. Le ministre du Travail, invité dans N'arrête pas l'écho sur France Inter, a aussi jugé que les rémunérations ne sont pas à la hauteur dans certains secteurs, comme les hôtels, cafés et restaurants. La question du pouvoir d'achat arrive donc dans le débat. Elisabeth Borne avec Alexandra Ben Saïd.
Il y a des secteurs qui doivent se remettre en question, et c'est le cas des hôtels, cafés, restaurants. C'est des secteurs qu'on a massivement aidés dans la crise et qui aujourd'hui nous disent on n'arrive pas à recruter. Il faut qu'ils se posent la question, pourquoi ils n'arrivent pas à recruter. Les branches de la propreté, de la sécurité, on leur demande de faire des efforts, de faire des avancées pour les salariés. Et elles vont le faire. Maintenant, il faut que ça se concrétise rapidement. Et je peux vous dire que, avec les responsables des hôtels, cafés, restaurants, je leur ai dit à plusieurs reprises, maintenant, j'attends qu'ils mettent des propositions sur la table.
Elisabeth Borne est sur cette question du pouvoir d'achat et des rémunérations. Laurent Berger, également interrogé plus tôt dans la matinée, dans le 6-9 sur France Inter, a pointé une responsabilité de l'État. Le secrétaire général de la CFDT répond à Éric Delvaux et Karine Bécard.
Il faut que les entreprises passent d'une logique de guichet au ministère de l'économie à une logique d'implication
négociation, dans la négociation sociale, notamment sur la question des salaires. Vous parliez de l'hôtellerie, café, restaurant. Aujourd'hui, on nous dit il y a des difficultés de recrutement dans ce secteur. Pourquoi ? Les conditions de travail, les salaires, l'organisation du travail, on connaît ces sujets-là. Eh bien, puisqu'on continue de maintenir des aides, et il faut continuer dans ce secteur-là, il faut contraindre à des négociations de branche sur les politiques salariales. Et là, le ministère de l'économie, il a un rôle. Il pourrait très bien dire, on va verser. On va continuer de verser les aides, et on n'est pas contre, mais vous êtes contraint d'ouvrir des négociations dans les branches, sinon les aides, vous ne les aurez pas.
Laurent Berger avec Éric Delvaux et Karine Bécard. Pour la quatrième fois, en un mois, un salarié EDF a été contaminé dans une centrale nucléaire française. Ce salarié a été contaminé par une particule radioactive fin août, lors de travaux d'entretien à la centrale de Cruas-Meysse en Ardèche. Une contamination jugée ponctuelle mais classée de niveau 2 par l'autorité de sûreté nucléaire, ce qui est assez rare. Et EDF, l'exploitant, peine à comprendre exactement ce qui s'est passé, Grégoire Lecalot.
Le 24 août dernier, deux salariés d'EDF entrent dans le bâtiment du réacteur numéro 2 de la centrale de Cruas. Le réacteur est bien sûr à l'arrêt. L'intervention n'est pas classée à risque, mais en passant les contrôles à la sortie de la zone nucléaire du bâtiment, l'un des agents est stoppé, il a été contaminé. Une particule radioactive est venue se coller sur sa nuque pendant son travail. Contrairement aux mains, aux pieds ou parfois aux genoux, cette partie du corps n'est pas examinée lors des contrôles intermédiaires aux sorties de chaque local. Il a été pris en charge et douché au service médical, mais la dose reçue est assez importante pour lui interdire de travailler en zone nucléaire pendant 12 mois, ce qui justifie le classement de l'incident en niveau 2 par l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Les causes de la contamination restent inconnues. EDF a lancé des investigations approfondies. L'électricien a 2 mois pour remettre un rapport à l'ASN et trouver la parade. Aucun autre salarié n'a été touché, mais l'ASN adresse à la centrale de Cruas son second avertissement de l'année, lui demandant de mieux veiller à la propreté radiologique de ses installations.
Nous sommes près d'une sixième extinction de masse. L'Union internationale pour la conservation de la nature tire la sonnette d'alarme. Elle dévoilera cet après-midi sa traditionnelle liste rouge des espèces menacées au Congrès mondial pour la nature qui s'est ouvert hier à Marseille. Cette liste recense 134 000 espèces animales et végétales dont près d'un tiers sont en voie d'extinction. Elle sera accompagnée pour la première fois d'une liste verte recensant les succès en matière de conservation.
France Inter, le journal de 13h, Frédéric Barrère.
À l'étranger, en Afghanistan, les talibans ont à nouveau repoussé l'annonce de leur gouvernement, dont la composition pourrait donner le ton des années à venir en Afghanistan. Dans le même temps, les combats se poursuivent dans la région du Panjshir, l'un des derniers foyers d'opposition armée au nouveau régime. Et les combats, Claude Guibal, durent depuis bientôt une semaine dans ce bastion anti-taliban.
Lorsque des coups de feu tirés en l'air ont résonné hier soir dans les rues de Kaboul, beaucoup ont cru que les talibans annonçaient ainsi la prise de la vallée du Panjshir, cette poche anti-talibane, fief historique de la résistance menée par le commandant Massoud, dont le fils Ahmad a aujourd'hui pris la relève. Mais les combats qui durent depuis lundi entre les talibans et le FNR, le Front National de la Résistance, n'ont en fait pas fini. Hier soir, le principal porte-parole des talibans demandait même sur Twitter de cesser ces tirs de joie qui ont fait 2 morts dans la capitale afghane. Et c'est probablement dans l'attente de la confirmation de la prise du Panjshir que les talibans reportent l'annonce du gouvernement que l'on disait imminente. Difficile de savoir s'il sera aussi inclusif qu'ils l'ont promis. Ces derniers jours, de nombreux contacts ont eu lieu avec l'ensemble de l'opposition. Ahmad Massoud affirme que 2 postes ont été proposés à la résistance, une offre qu'il a, dit-il, déclinée. La communauté internationale attend la composition de ce gouvernement pour déterminer sa marge de dialogue avec les talibans. Un dialogue rendu urgent par la situation humanitaire. L'ONU vient d'annoncer une réunion dans 10 jours pour tenter de venir en aide à la population afghane.
En Allemagne, à 3 semaines des élections législatives, le SPD reprend espoir. Le plus ancien parti du pays, le Parti social-démocrate, renoue avec des sondages inégalés depuis une quinzaine d'années. Son candidat, Olaf Scholz, 63 ans, actuel vice-chancelier et ministre des Finances, est crédité de 25% des voix. Il apparaît depuis bientôt 2 semaines comme le plus crédible pour succéder à Angela Merkel. Olaf Scholz fait campagne calmement, sans éclat, comme hier soir, lors d'un meeting à Berlin, notre correspondant Ludovic Piétenu l'a suivi.
Il cultive cette image d'homme serein, sérieux, qui s'adresse à un électorat allemand qu'Angela Merkel, après 16 années de pouvoir, a considérablement recentré. Des Allemands qui préfèrent la simplicité aux étincelles. Mais de quoi parle-t-il ? Sa proposition phare, augmenter le salaire minimum de 9,60€ à 12€ de l'heure, proposition similaire à celle des Verts, avec lesquels il partage pas forcément les mêmes propositions, mais au moins un discours. Quand nous parlons de croissance, elle doit être sans dommage pour le climat, sans nuire à l'environnement, sans détruire les ressources. C'est c'est cette économie-là que nous voulons. Une seule fois, il attaque un autre parti, la CDU, qui a, dit-il, résisté à notre proposition pendant 4 ans avant de finir par accepter, il y a quelques mois, une loi obligeant les grandes entreprises à nommer au moins une femme dans leur conseil d'administration. C'est bien le signe qu'il y a encore beaucoup à faire dans notre société, le signe qu'il faut écouter l'opposition et que c'est l'heure du réveil pour l'Allemagne. Rare envolée de ce petit meeting de quartier dans la capitale où il parle d'égalité, de respect, de solidarité, des thèmes de la social-démocratie très consensuels avec lesquels il avance sans bruit et sans risque. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Et ce matin, l'Élysée annonce que le président Macron recevra Olaf Scholz lundi à Paris. Le chef de l'État recevra également deux jours plus tard, mercredi, son principal concurrent, le conservateur de la CDU, Armin Laschet. Les Jeux paralympiques de Tokyo avec une nouvelle médaille. Ce matin, Nelia Barbosa remporte la médaille d'argent sur 200 mètres en paracanoë. Mais l'événement côté français ce week-end à Tokyo, c'est le badminton. Lucas Mazur va disputer demain deux finales. Il pourrait bien décrocher deux médailles d'or, Guillaume Batin.
L'objectif de Lucas Mazur est de graver son nom dans l'histoire de son sport. Pour la première fois de l'histoire, le para-badminton figure dans la liste des disciplines paralympiques. Il l'a déjà un peu fait ces dernières années. Numéro 1 mondial de sa catégorie depuis 3 saisons, il est double champion du monde en titre et 6 fois champion d'Europe. Demain, il disputera la finale en simple face à un adversaire indien. Il est favori pour la médaille d'or, tout comme en finale du simple mixte avec Faustine Noël face à une paire polonaise. Lucas Mazur souffre d'une malformation de la cheville suite à un AVC, un accident vasculaire cérébral à l'âge de 3 ans. Il mène sa vie de sportif de haut niveau aussi bien que sa vie d'étudiant. Il est inscrit en gestion des entreprises et des administrations à l'Université de Bordeaux. Et l'équipe de France paralympique compte sur lui pour gagner deux nouveaux titres demain et faire passer les Bleus devant l'Allemagne au tableau des médailles.
Du rugby et la reprise aujourd'hui du top 14 avec les grands favoris, Toulouse ou La Rochelle, mais aussi le Racing 92 ou l'Union Bordeaux-Bègles. Et puis, deux clubs retrouvent l'élite, Biarritz et Perpignan. Les Catalans vont à nouveau tenter leur chance en top 14 avec pour objectif le maintien, Cyril Manière, France Bleu Roussillon.
Le dernier passage en top 14 pour l'USAP avait été catastrophique. Seulement 2 matchs gagnés sur 26. Mais depuis, les Catalans ont rebondi. Des joueurs d'expérience recrutés, des jeunes qui se sont révélés. Et l'USAP revient en toute humilité. L'entraîneur Patrick Arletaz.
On sait que tout le monde va vouloir nous battre à tous les matchs. Nous, il faut qu'on soit en capacité de vouloir gagner tous les matchs. Parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser des points en route. Parce que jouer le maintien, c'est quelque chose de très très compliqué, très très dur.
L'USAP, c'est aussi un peuple qui n'a jamais lâché son équipe et qui garde son optimisme.
Le maintien sera là, facilement. On a 3 équipes à gagner, après le restant, ça va bien.
Je pense que ça va être une bonne saison. Il y a des bonnes recrues, après ça va être compliqué en top 14, mais on espère qu'on va tenir le coup et qu'on va faire une belle saison du coup. Et
je pense qu'on a tout mis les ingrédients pour se sortir cette année.
L'USAP qui a aussi une tête d'affiche désormais, Melvin Jaminet, arrière de 22 ans, à peine un an d'expérience, aucun match de top 14 à son actif et pourtant déjà 3 sélections chez les Bleus. Il sera une des attractions du championnat.
Beaucoup me disent que j'ai changé de statut, mais moi personnellement, je m'en rends pas compte. Voilà, je prends toujours autant de plaisir à jouer, je me prends pas trop la tête et je pense que c'est comme ça que je continuerai à faire cette saison. Voilà, je focalisais sur la saison et je me prends pas trop la tête avec ce qui se dit.
L'USAP veut afficher un nouveau caractère pour décrocher son maintien. Premier test, grandeur nature, cet après-midi à Brive.
Du football également aujourd'hui, qualification pour le Mondial 2022 au Qatar. L'équipe de France joue ce soir en Ukraine. Après 4 matchs nuls d'affilée, les Bleus vont devoir se rattraper, même sans Kylian Mbappé blessé au mollet. Ukraine-France, coup d'envoi ce soir à 20h45. 4, 3, 2, 1, lift off. Et nous partons pour quelques minutes dans l'espace avec Thomas Pesquet pour son journal de bord de la semaine. L'astronaute dans la Station Spatiale Internationale depuis 4 mois entame le dernier tiers de sa mission. Chaque semaine, il nous livre son quotidien à bord dédié à la science. Et cette semaine, Sophie Becherel, de nouvelles expériences ont été livrées.
Ces expériences ont été apportées par un vaisseau cargo Dragon de SpaceX. Elles devront être réalisées en un mois, car il est prévu de les renvoyer ensuite sur Terre pour que les scientifiques en analysent les résultats. Un ravitaillement, c'est toujours l'occasion de glisser quelques surprises et cadeaux. Cette fois-ci, à l'attention de Meghan MacArthur. Elle a fêté cette semaine ses 50 ans dans l'espace.
C'est vrai que c'était l'anniversaire de Meghan, donc on a eu des petites attentions. C'était dans notre allocation personnelle, hein. C'est pas en plus, mais chacun avait fait des petits, un petit ballon gonflable, un petit signe, des bougies, tout le monde avait, comme c'est la seule fille de l'équipe, tout le monde s'était un peu décarcassé pour avoir quelque chose de spécial, donc elle était contente, c'est chouette. Et puis, deux tonnes d'œufs de ravitaillement et d'équipement scientifique. Donc, ravitaillement, ça c'est comme d'habitude, nourriture, vêtements, etc. Et notamment pas mal de choses pour l'équipage d'après, en fait. Quand eux vont arriver, notamment mon collègue allemand Mathias, ils auront déjà la nourriture qu'eux ont choisie, leur thé, leur café, etc. Ils auront déjà leurs habits, leurs équipements de sport, comme nous on l'a eu quand on est arrivé. En fait, tout ça, ça arrive en avance. C'est normal. Puis beaucoup d'expériences scientifiques, comme d'habitude.
Pouvez-vous en évoquer quelques-unes ?
On a une expérience qui s'appelle Déclic, qui est CNES et NASA. Et là, c'est de la physique fondamentale un peu compliquée. C'est étudier les fluides supercritiques. C'est un peu un quatrième état de la matière, en gros, qui est ni solide, ni liquide, ni gazeuse, mais un truc un peu spécial qui intéresse les chercheurs parce que ça permettrait de faire une combustion propre, en fait, sans émettre de CO2. Et ça, c'est vachement important. On a des expériences sur les surfaces antibactériennes aussi, que j'ai installées hier. Et puis des expériences de sciences des matériaux pour des métaux plus solides, plus légers, des alliages. Je sais que la NASA, j'ai installé aujourd'hui une expérience de plantes pour étudier comment les plantes résistent au manque de ressources, aux environnements compliqués. Voilà, donc ça va être assez dense, je pense, d'autant qu'on a des sorties extravéhiculaires qui arrivent dans la même période.
Justement, la NASA vient de vous attribuer une quatrième sortie dans l'espace. Pourquoi ?
En fait, ça devait être acquis avec Marc, mon collègue de la NASA, Marc. Et puis finalement, il a une petite douleur un peu persistante dans l'épaule, dans le cou. Et puis du coup, les médecins ont commencé à lui demander de faire des tests, mesurer la différence de force entre le bras droit et le bras gauche, etc. etc. Et donc, c'est même lui, de manière extrêmement pro, qui a proposé, qui a dit si c'est mieux, il faut m'enlever de cette sortie et mettre quelqu'un d'autre. Puis il se trouve en fait qu'il a la même taille de scaphandre que moi. Alors que Shane, c'est une autre taille, donc il aurait fallu préparer un autre scaphandre, ça aurait pris pas mal d'heures, ça aurait été un peu plus compliqué.
Est-ce qu'une sortie imprévue est finalement plus compliquée pour un astronaute ?
Oui, une sortie improvisée, elle est plus difficile. La chose que tout le monde veut faire, mais ne veut jamais refaire, c'est-à-dire une sortie improvisée un peu au dernier moment, où on te dit, il faut que tu sortes demain et on y va. Donc on a tous envie de faire ça, d'être un peu le héros du moment, c'est bon. Mais on n'a jamais envie de le refaire après, parce qu'en général, c'est quand même assez compliqué. Donc là, on a quand même 2 semaines pour s'y préparer, mais je connaîtrai moins par cœur la procédure, je serai moins familiarisé avec l'équipement, donc il faudra peut-être aller un petit peu plus doucement, faire un peu plus attention, peut-être je poserai un peu plus de questions. Mais de toute façon, ce sera acquis le leader sur cette sortie, parce que c'était prévu comme ça, donc lui, pour le coup, il s'y prépare depuis longtemps, donc il n'y aura aucun problème.
La crainte lors d'une sortie, c'est qu'un scaphandre soit percuté et percé par une micrométéorite. Il y a baisse de pression et perte d'oxygène. Comment vous mesurez le risque ?
Si on avait un gros trou, on va dire un trou de 5 mm de diamètre ou 1 cm peut-être de diamètre maximum, on pourrait tenir maximum 20-30 minutes. Et c'est pour ça que tous les scénarios de sauvetage, en fait, sur lesquels on s'entraîne en piscine, hein, le timing, c'est moins de 30 minutes. Donc sauvetage, il y en a un qui fait semblant d'être inconscient et l'autre qui doit le ramener. Quand même extrêmement difficile, parce que c'est comme trimballer un lamantin en piscine, donc d'une main et puis de l'autre main se déplacer, donc c'est pas facile physiquement, mais en gros la note éliminatoire, c'est 30 minutes. Au-delà de 30 minutes, il faut se réentraîner jusqu'à ce qu'on y arrive.
Mission Alpha, le carnet de bord de Thomas Pesquet avec Sophie Becherel, est retrouvé sur franceinter.fr. Et on termine avec le choix culturel de ce week-end, particulièrement remarqué pour avoir dirigé les créations sur Leonard Cohen au printemps de Bourges. Le musicien producteur Yann Wagner revient avec un nouveau disque intitulé Couleur Chaos. Il chante pour la première fois en français, Mathieu Culeron.
Après avoir testé ses nouveaux titres en première partie d'Étienne Dao, Yann Wagner se décide à chanter en français pour ce nouveau disque. Un nouveau terrain de jeu inspirant pour le musicien et le producteur franco-américain.
J'ai travaillé un an là-dessus, essayé de chanter en français pour retrouver la voix que j'avais commencé à me faire en anglais, pour que je me reconnaisse. C'était donc ce morceau qui s'appelle « Fais comme si », c'est le premier single qu'on a sorti. Je trouvais ça assez intéressant de le sortir d'ailleurs en premier, parce que pour moi c'est vraiment celui qui a lancé la chose dans une forme très embryonnaire, très différente, mais... C'est vraiment celui qui m'a donné le feu vert pour passer en français. Le français, ça m'a vraiment ouvert énormément d'horizons d'écriture.
Dans son propre studio, Yann Wagner revisite les années 80 avec sérieux et autodérision, une période qui le fascine depuis toujours.
C'est une décennie qui est hyper importante, moi je pense, dans l'histoire de la musique, c'est vraiment la plus importante à mon avis. Voilà. Mais il y a eu énormément de daubes, mais je veux dire, c'est quand même la décennie qui a vu naître le rap, la techno, enfin la house, quoi. Tout quoi. Toutes les bases sur lesquelles on marche aujourd'hui. Quoi. Voilà.
Couleur Chaos, nouvel album de Yann Wagner, un nouveau départ sensible et juste pour le musicien qui rentre avec flamboyance dans le monde de la chanson française.
J'me break. C'est comme si j'étais pas là.
Voilà, couleur KO de Yann Wagner avec Mathieu Culeron. Le temps pour les heures qui viennent et pour demain.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Jean-Michel Golinski.
Des températures élevées cet après-midi et homogènes entre le nord et le sud, variant entre 25 et 28 degrés, avec un risque d'orage qui va se manifester aux heures les plus chaudes, notamment entre la Normandie, la Bourgogne, la Champagne, le bassin parisien, le centre Val-de-Loire, le massif central, les Alpes et la montagne Corse. Mais la liste n'est pas exhaustive. Le tout s'accompagnant de fortes averses et cette instabilité va s'estomper en soirée. Demain, les températures vont gagner un peu plus, jusqu'à 29 degrés en Rhône-Alpes et du centre Val-de-Loire au bassin parisien, 29 à 32 de la Méditerranée à l'Aquitaine, avec de rares ondées en plaine. L'après-midi, elles seront plus fréquentes sur le relief des Alpes à la Corse, le tout sous un ciel plus ou moins variablement ensoleillé après les grisailles matinales, plus lentes à évoluer sur les plages du Golfe du Lion.
Jean-Michel Golinski de Météo France.